Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Comment concilier rentrée scolaire et crue? C'est le défi des autorités dans l'Ouest. Ce matin, nous serons en direct de Saintes en Charente-Maritime qui s'apprête à accueillir les élèves alors que le niveau de l'eau stagne. MaPrimeRénov', de retour aujourd'hui après des mois de suspension avec un nouveau dispositif anti-fraude, un rendez-vous obligatoire et puis un record de médailles mais pas de top 5 comme espéré. On fait le bilan des Bleus au JO d'hiver de Milan Cortina, officiellement clôturé hier soir.
Les autorités promettent une rentrée de vacances quasi normale malgré les crues.
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Charente-Maritime, toujours en vigilance rouge. La décrue amorcée pour presque tous les cours d'eau, mais elle sera très lente. Pierre Bourgès, vous êtes devant une école de Saintes en Charente-Maritime pour RMC. Tout est mis en place pour que le retour des élèves puisse se faire.
C'est ça, on se prépare ce matin. Je me trouve devant l'école Pasteur dans le centre de Saintes. Certains professeurs sont déjà là. On peut voir la lumière dans les salles de classe s'allumer petit à petit. On se prépare ce matin parce que l'école va accueillir à 8h30 deux classes supplémentaires. Il s'agit des élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Paul Bert qui restera quant à elle fermée aujourd'hui à cause des inondations. On fait le point. Au total, à Saintes, 5 établissements différents de la ville vont accueillir 8 classes venant des 3 écoles fermées ce matin à cause des crues. C'est la solution qu'a trouvée la mairie pour pouvoir assurer cette rentrée des classes. Il risque tout de même d'y avoir des absents puisque les transports scolaires ne passeront pas dans certaines communes alentours selon la mairie. Pour le moment, la décrue s'annonce lente, très lente. Les écoles impactées par les inondations pourraient rester fermées. Mais toute la semaine, il y a tout de même une bonne nouvelle. Après plus d'un mois de pluie, la rentrée scolaire à Saintes va se faire au sec.
Pierre Bourgès en direct de Saintes, donc pour RMC. Pugila, un stand de nougat. C'était au salon de l'agriculture. Hier, 15 personnes interpellées après une bagarre entre exposants et visiteurs. Vous aurez tous les détails dans le journal de 7h30. C'est le grand retour de MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, l'aide à la rénovation énergétique avait été suspendue, vous le savez, en fin d'année dernière. Il fallait alors voter le budget et surtout résoudre le problème des fraudes. Alors, les guichets rouvrent à midi et les demandeurs doivent désormais se plier à de nouvelles obligations, Victor Girard.
Dans les locaux de France Rénov', le téléphone n'arrête pas de sonner.
Espace France Rénov', bonjour.
C'est désormais ici qu'il faut se rendre pour un rendez-vous obligatoire avant toute rénovation d'ampleur.
Vous êtes sous les toits, vous ?
Un entretien d'environ une heure explique le conseiller Sylvain Gaillot. Objectif, cadrer les travaux, guider le choix des entreprises et éviter les arnaques.
On leur dit ce qui est intéressant de faire au niveau de la rénovation. Ensuite, on regarde quels matériaux peuvent être mises en place. Un regard neutre du service public, bienvenue pour détecter la fraude et notamment des devis qui seraient surélevés.
Cette réouverture des guichets doit aussi permettre de débloquer tous les dossiers restés en attente faute de budget. Il y en a plus de 80 000.
C'est une bonne chose.
Se réjouit le représentant des entreprises du bâtiment, Jean-Christophe Repond. Il est le président de la CAPEB.
Un dossier qui reprend, ça veut dire un chantier qui va être commencé. C'est des acomptes qui vont rentrer dans l'entreprise, des embauches et donc une activité économique qui reprend.
Au total, plus de 250 000 rénovations énergétiques pourraient être financées cette année. L'État prévoit une enveloppe de 3,6 milliards d'euros. Une somme que certains acteurs du secteur jugent encore insuffisante au regard de l'ampleur des besoins en rénovation énergétique.
Les explications de Victor Girard pour RMC. Du changement au gouvernement pour chapeauter les finances publiques, Amélie de Montchalin prend aujourd'hui ses fonctions à la tête de la Cour des comptes. David Amiel, fidèle macroniste, récupère sa place de ministre des comptes publics. Il est 7h04 sur RMC. La France insoumise a choisi sa stratégie, un soutien total aux députés LFI Raphaël Arnaud, son désormais ex-assistant parlementaire en détention provisoire, mis en examen pour complicité d'homicide volontaire par instigation dans la mort de Quentin Deranc à Lyon. Raphaël Arnaud, aussi fondateur du groupe antifasciste dissous de la Jeune Garde, ses anciens membres soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. Mais donc, Cyprien Pézril du service politique de RMC, pas question pour les insoumis d'exclure l'élu du Vaucluse.
Ne jamais baisser la tête et rejeter toute responsabilité politique. Doctrine suivie à la lettre par la France insoumise. On a voulu que Raphaël Arnaud soit des nôtres. Ce n'est pas maintenant qu'on va lâcher, assume un député. Pas question donc d'ouvrir une brèche et de céder aux appels à l'exclusion du fondateur de la Jeune Garde, avec toujours le soutien appuyé de la présidente du groupe, Mathilde Panot.
Je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe. Raphaël Arnaud ne porte en aucun cas le fait qu'on puisse tabasser un homme à terre jusqu'à sa mort. Et donc, Raphaël Arnaud doit rester dans notre groupe. Ceux qui instrumentalisent ce drame en faisant croire que les insoumis auraient du sang sur les mains sont hautement irresponsables.
Mais donc, si quelques insoumis critiquent à bas bruit cette stratégie, aucun ne le fait publiquement. C'est une période délicate, mais les soufflets finissent toujours par retomber, se perçoit un cadre pour qui il ne s'agit que d'une tempête de plus. Jean-Luc Mélenchon compte toujours sur son socle électoral solide. Il sera jeudi à Lyon pour un meeting prévu de longue date et qui se tiendra deux semaines, jour pour jour, après l'agression mortelle du militant nationaliste.
Et toujours en marge de cette affaire, notez que l'ambassadeur américain est convoqué au Quai d'Orsay à 19h ce soir. La diplomatie française reproche à l'administration Trump d'avoir relayé sur les réseaux sociaux des messages critiquant une prétendue montée des violences de gauche en France. Washington, qui par ailleurs est très inquiète pour ses ressortissants au Mexique ce matin, le pays plongé dans une ambiance d'insurrection ces dernières heures depuis la mort d'un chef de cartel tué par l'armée mexicaine, Romain Houg.
Oui, les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos dans de très nombreux états à travers le Mexique. Des hommes lourdement armés, cagoulés dans les rues, affrontent par endroits les forces de l'ordre, bloquent les routes, prennent d'assaut des bâtiments, des commerces, en incendient d'autres. Dans certaines villes, de nombreux panaches de fumée s'élèvent dans le ciel sous les yeux d'une population terrorisée. Ces scènes de guerre menées par des membres du puissant cartel CJNG interviennent en réaction à la mort de leur chef Nemesio José Guerra, connu sous le nom d'El Mencho, dans une opération menée par l'armée mexicaine. Il était l'un des hommes les plus recherchés dans le pays. Et les États-Unis, qui accusent son cartel d'être l'un des principaux responsables du trafic d'héroïne et de cocaïne, offraient 15 millions de dollars pour toute aide à sa capture. Les États-Unis, qui appellent ses ressortissants au Mexique à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre, jusque dans des villes très touristiques comme Cancun ou Guadalajara. Des dizaines de vols entre les deux pays ont été annulés.
Les précisions de Romain Houg pour RMC.
7h07, allez, on fait un tour du côté du bilan des JO d'hiver.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Des JO officiellement clôturés avec la cérémonie d'hier soir à Vérone en ligne de mire. Déjà, les JO en France, dans les Alpes, en 2030, dans 4 ans, il faudra battre alors ce nouveau record établi de 23 médailles, dont 8 en or. Alors, comment faire? Élément de réponse avec Morgane Maury.
Le biathlon en navire amiral, des récompenses dans 7 disciplines. Seulement 4 pays font mieux. Des femmes extrêmement performantes. Ces JO ont amorcé beaucoup de développement très prometteur pour les Bleus. Manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport, Yann Cuchera pointe la spécificité française.
Le plus important, c'est de savoir ce qui marche pour notre culture française. Et donc, d'être très éclectique finalement dans nos performances, c'est ce qui nous rend fort dans la durée.
Pour les JO 2030, la mission est d'augmenter de 50% encore le nombre de médailles récoltées en Italie, c'est-à-dire se rapprocher et même dépasser les 30 breloques. Il faudra progresser sur la glace et en freestyle pour se placer dans le top 5. Marina Ferrari, ministre des Sports.
Chez moi, quand on dit merci, ça veut dire encore. Donc ça veut dire qu'on va continuer à s'inscrire dans le soutien à cette haute performance.
Le budget à la haute performance ne diminuera pas.
Avec toujours autant d'ambition, si ce que vous voulez savoir, soyez rassurés, l'ambition, elle est là et nous mettrons les moyens.
Mathis Desloges, 23 ans, triple médaillé en ski de fond, Océane Michelon, même âge, championne olympique en biathlon, les frères Chollet, 17 et 21 ans en snowboard cross. Les jeunes pousses sont là, rendez-vous dans 4 ans.
Et en attendant, Albertville, aujourd'hui, grande célébration de nos athlètes tricolores. RMC sera le Super Moscato Show, participera à la fête en direct d'Albertville entre 15h et 18h avec des médaillés comme Océane Michelon, Julia Simon ou encore Émilien Jacquelin en invité. Puis un mot de foot, pour vous signaler la victoire de Strasbourg, 3-1 contre Lyon hier soir en Ligue 1. Fin de série pour des Lyonnais qui visaient un 14e succès consécutif.
Merci Victor, il est 7h09 sur RMC. On va partir au 32-16, il y a Fabrice qui nous a appelé de Perpignan. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Fabrice? Vous êtes en reconversion professionnelle dans quel secteur?
En médiation numérique.
En numérique. Fabrice, vous vouliez réagir à cette marche à Lyon samedi, hommage au jeune Quentin avec des saluts nazis, avec la préfecture qui a même fait des signalements pour un certain nombre de slogans racistes et homophobes. Ça n'a pas l'air de vous surprendre, Fabrice?
Bah, pas vraiment, non. Moi, dès que j'ai entendu que la manif était autorisée, je me suis dit, on autorise les groupes néo-fachos en France à manifester, quoi. Alors, je dis pas que la manif avec que des gens de ce genre, hein, mais il y en avait. Et c'était forcément ça. Parce que c'était organisé aussi, entre autres, par ces groupes.
Par ces groupuscules. Après, vous trouvez que ça aurait dû être annulé, carrément?
Ah oui, bah, c'est clair. Moi, à mon époque, ça fait vieux de dire ça.
Vous avez quel âge, Fabrice?
56.
56, ça va.
Ouais, oui, non, non, mais je veux dire, allez, dans certaines années de ma, où j'étais plus jeune, il n'y avait pas de ce genre de manif, ou alors c'était, ça choquait, maintenant ça ne choque plus.
Ouais,
ça devient banal, quoi.
Ouais.
Je sais pas, après, si c'est un truc de la préfecture ou de l'État pour choper les mecs, c'est bien joué.
Alors, cela dit, ce que vous dites n'est pas forcément complètement faux. Fabrice, on sent qu'il y a aussi de ça. Hein. Il y a quelque chose de... À un moment, il faut aussi les voir dans la rue. Fabrice, quand vous dites banal, heureusement, c'est pas banal. Et non, d'ailleurs, même le RN a interdit, a demandé à toutes ses troupes de ne pas participer, de ne pas manifester. Mais en effet, ils étaient 3200, c'était des ultras, et il y a ces images quand même assez inouïes.
Ce qui est choquant, c'est justement, normalement, théoriquement, un groupe politique, mais ça vaut dans tous les camps, hein, je veux dire, n'a pas à dire à ses militants de ne pas y aller. Ça doit être normal. Si ils disent ça, c'est qu'ils savent très bien que, bon, bah, il y a des
inconvénients. C'est qu'on pouvait anticiper, effectivement, que, et puis oui, en effet, que certains pouvaient être tentés. Alors, cela dit, quand vous l'avez peut-être vu, hein, il y avait même un élu LR, sénateur de Lyon, qui a participé, comme vous dites, il n'y avait pas que les ultras. Enfin, il y en avait quand même une bonne part. Merci en tout cas d'avoir réagi, Fabrice. Et puis cette question qu'on vous pose aussi ce matin, est-ce qu'il faut désormais, au-delà du slogan « tous contre LFI », être tous contre le RN, est-ce que d'ailleurs les consignes de vote, ça marche encore? Le cordon sanitaire, il doit être de quel côté? N'hésitez pas à réagir au 32-16. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et si franchement, ça n'allait pas si mal, finalement? Et si l'économie française était même à l'aube d'une nouvelle belle époque? Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste et vous nous développez dans un instant votre manuel anti-déclinisme. Franchement, j'ai très très envie de vous entendre. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Et si finalement ça n'allait pas si mal? Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous publiez L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. C'est aux éditions XO, confiante de la France. Mais comme on a envie de vous entendre, on a bien envie de vous croire. Mais franchement, est-ce que vous avez des exemples pour nous dire, eh bien, qu'il faut faire mentir les déclinistes?
Ah mais complètement, mais toute l'histoire de France, en fait, c'est une histoire où la mort de la France est pronostiquée. En fait, on se rend compte que la France, son problème, c'est qu'elle se bloque, mais elle se débloque aussi. Ce déblocage peut être extrêmement rapide et les périodes de rebond sont extrêmement forte. Et en fait, vraiment, toute notre histoire, c'est ça. Allez, regardez, 1958, par exemple, le FMI est véritablement chez nous. C'est-à-dire que la France est quasiment en situation de faillite. Le général de Gaulle revient, il fait un plan de réduction de la dépense publique, grosso modo, hein, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il fait appel à l'économiste le plus libéral du pays, qui s'appelait Jacques Rueff, pour libéraliser notre économie. Un an après 1959, on a un excédent budgétaire et la France va connaître la deuxième partie des 30 Glorieuses, la plus brillante de toute l'histoire. Et aujourd'hui, c'est pareil, en fait. Il manque pas grand-chose. C'est ça ce dont je
Donc
veux
en fait, pour
convaincre
vous,
mes concitoyens.
Le sauveur, ce serait un libéral.
Ah ben ça, j'en suis absolument persuadé. Et je pourrais vous démontrer que les grands dirigeants en France, d'Henri IV à De Gaulle, en passant même par Napoléon III, enfin, ont tous mené des politiques libérales. Mais regardez, je vous prends un deuxième exemple très rapidement, mais je trouve et résonne beaucoup aujourd'hui. 1870, la France perd la guerre et s'en suivent mais 20-25 ans de drame avec la guerre civile, la commune, un président de la République qui se fait assassiner, l'affaire Dreyfus. Bon, à la fin du 19e siècle, la France invente le cinéma, elle va devenir le leader mondial de l'industrie automobile jusqu'à l'arrivée de la Ford T, et elle va même inventer l'aéronautique et rapidement devenir leader mondial de l'aéronautique. Je veux dire, c'est absolument fantastique.
Donc aujourd'hui, on n'a pas trop de freins à main qui soient vraiment mis sur l'économie.
C'est une très bonne analogie. Je pense qu'il faut desserrer le frein à main, mais c'est pas très compliqué. Je pense que aujourd'hui,
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement là?
Le plus important, c'est vraiment un grand plan de simplification normatif et administratif. Mais là encore, comme on l'a fait tant de fois dans notre histoire, c'est ce que Napoléon a fait avec le Code civil, De Gaulle l'a fait en 58. J'en parle. Parce que vous avez une telle énergie. Je veux dire, la France, et les étrangers nous le disent, c'est une usine à entrepreneurs et une usine à ingénieurs. Et donc aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la robotique, des biotechnologies, mais On devrait être les rois du monde. C'est ça la vérité. Donc la source d'énergie, la source entrepreneuriale, la source scientifique, elle est chez nous. Il faut la garder. Il faut libérer les énergies. Mais si on fait ça, Apolline, je vous le promets, mais la France, dans 5 ans, c'est le paradis. Tout le monde
ça
voudra venir.
Ça sera une Ferrari, quoi.
Mais tout le monde voudra venir. C'est ce qui s'est passé au moment de la Belle Époque où le monde entier venait chez nous.
Le problème ensuite, c'est qu'aujourd'hui, le travail ne paye pas. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des entreprises qui se créent, mais ensuite, pour payer ses salariés, pour que les gens aient le sentiment quand même que s'ils bossent, ça vaut la peine.
Vous avez mille fois raison, mais ça, c'est une question qui n'est pas très compliquée.
En fait, c'est une question qui est assez politique.
Mais elle l'est complètement. Mais on a des charges qui pèsent sur le travail, surtout. Je veux dire, la fiscalité en France, elle est devenue complètement baroque parce qu'on a des dépenses publiques et des dépenses sociales en particulier qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors, c'est sûr que quand on suspend la réforme des retraites au Parlement pour acheter la stabilité parlementaire, du point de vue économique, on ne fait pas un truc génial. Hein. Ce n'est pas ça qui va beaucoup nous aider ces prochaines années. Donc, il faut arrêter ce genre de choses bizarres. Mais si on revient avec un peu de bon sens, je vous le dis.
Donc, on simplifie.
De l'ordre de les finances.
On simplifie. On réduit la dépense.
Bien sûr. Mais rien que ça. Mais vous allez voir, mais les choses vont considérablement s'améliorer ces prochaines années.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez l'air. Voilà. Alors, d'ici là, il faut pas que les gens partent.
Faut pas quitter la France. Hein, c'est comme en bourse, ça s'achète à la baisse. Hein. C'est-à-dire que les gens qui partent aujourd'hui, ils vendent.
Tant pis pour eux.
Ils vendent la. Ah bah, c'est-à-dire que quand ça ira mieux, ils seront partis. Hein. Donc, faudra qu'ils reviennent. Hein. Donc, moi, je reste en tout cas. Hein. Parce que, franchement, non mais vous avez une. Mais vous le sentez aujourd'hui. Vous le voyez bien. Mais vous les. En plus, Apolline, vous
recevez. Il y a une retenue. En fait, il y a une retenue. Ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'on retient tout le monde, mais dès qu'on pourra lâcher l'élastique, ça va partir vraiment à fond au quart de tour.
Ça fait 1000 ans que ça se passe comme ça. Mais je pourrais vous prendre des exemples plus anciens, mais après les guerres de religion, la croissance en France a été absolument extraordinaire.
Récemment,
on a une espèce d'énergie, vous voyez.
Récemment, les JO, et ils reviennent à nouveau prochainement. Pour vous, c'est un exemple aussi de rayonnement.
Les JO et Notre-Dame, regardez ce qui s'est passé. On a fait des lois de simplification au Parlement, dans les deux cas, hein, pour dire aux gens, écoutez, toutes les normes qui vous empêchent de bosser tout au long de l'année.
Ce qui prouve que ces normes sont un enfer.
Ça dit quelque chose d'assez profond quand même. Donc, on fait voter une loi pour que les normes ne s'appliquent pas ou s'appliquent
moins. On en a vraiment besoin, on sait les faire sauter, quoi.
Oui, bien sûr. On dit aux gens, allez chercher de l'argent privé, parce que Notre-Dame et les JO, en réalité, c'est de l'argent privé. Donc, on a dit aux gens, il n'y a plus d'argent public, ce qui est vrai, allez chercher de l'argent privé. Et vous donnez aux Français un grand projet. Parce que si nous, en France, on n'a pas un grand projet, on se bat en permanence. Mmh. On est très conflictuel. Ouais. Donc, il faut qu'on ait un grand projet qui nous dépasse.
Il faut qu'on regarde ensemble dans la même direction.
Et regardez, avec Notre-Dame et les JO, mais le monde entier. Les Américains, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris s'en sont toujours parmi. Hein. Mm. Ils pensaient qu'ils allaient mettre Beyoncé dans un stade et que ça suffirait. C'est une bonne idée. Mais là, franchement, ils ne s'en sont pas. Donc la France, elle étonne le monde. Non, mais vous plaisantez,
elle étonne,
vous ne croyez
elle
pas.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Franchement, regardez les JO d'Italie, ils sont sympas, mais enfin, c'était pas à la hauteur quand même, on est d'accord ou pas?
Allez,
ce que fait la France.
Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. N'hésitez pas à réagir au 32-16. Dites-nous si vous partagez la confiance de Nicolas Bouzou dans la France et sa capacité à rebondir. L'éternel sursaut, c'est passionnant. C'est une histoire confiante de la France et c'est aux éditions IXO. Nicolas Bouzou. Pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin est entré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, dans un instant, on va remonter le temps avec vous. Le premier tour des municipales approche et pour certains candidats, l'heure de la retraite est loin d'avoir sonné.
Et oui, rendez-vous compte, un certain maire était là sous Giscard d'Estaing quand d'autres ont carrément fait campagne depuis leur lit d'hôpital.
J'adore, vous allez nous raconter ça, ne bougez pas. On se retrouve dans 30 secondes sur RMC 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps, il est 7h23. On va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Rebonjour Arthur.
Rebonjour.
Le premier tour des élections municipales, c'est donc dans moins de 3 semaines maintenant. Les candidats ont jusqu'à jeudi 18h pour déposer leur candidature. Plusieurs maires octogénaires refusent de raccrocher l'écharpe.
Et oui, c'est notamment le cas d'André Santini, 85 ans, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980. Alors lui, il fait même campagne depuis une chambre d'hôpital après une mauvaise chute. Hein. C'est aussi le cas de Patrick Ollier, 81 ans, maire de Rueil-Malmaison depuis 2004. Ou encore d'André Léniel, 83 ans, maire d'Issoudun depuis 1977. Tous brigueront un nouveau mandat. On peut le dire, Apolline, les papis font de la résistance.
Les papis font de la résistance. En général, ils ont à peu près quel âge les maires en France?
Alors, en moyenne, les maires ont 59 ans et demi. Hein, c'est une moyenne nationale. Seulement 4% d'entre eux ont moins de 40 ans. Comme quoi, Emmanuel Macron était vraiment un ovni politique, hein, puisqu'en devenant président à 39 ans, il s'était hissé à la deuxième place de nos chefs d'État les plus jeunes depuis la Révolution française, juste derrière un certain Napoléon Bonaparte, qui à 30 ans a pris le pouvoir, hein, c'est le record absolu en France. Ce que ça prouve, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour accomplir de grandes choses.
Enfin, Napoléon et Macron sont plutôt des exceptions quand même, globalement, en termes d'âge. Hein.
Je dois dire que vous avez raison, Apolline. Hein. L'important en politique, c'est d'être patient. Prenez l'exemple de Georges Clemenceau. Il a commencé sa carrière très jeune, hein. Il devient très vite maire, député, si bien qu'en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il passe pour un vieux, hein. Tout le monde se dit que sa gloire est derrière lui. Eh bien non, à 76 ans, il est nommé Premier ministre, il réorganise l'administration, le gouvernement, l'armée, et alors qu'on était mal barré, il remporte la Première Guerre mondiale à 78 ans, c'est tout ce qu'on retiendra de lui.
D'ailleurs, les hommes politiques peuvent passer leur vie à attendre le pouvoir suprême.
Hein. Oui, attention, parce que parfois, on attend longtemps, et quand on y arrive, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Hein. C'est ce qui est arrivé à un de nos plus vieux présidents élus. Il s'appelait Paul Doumer. Après une carrière exemplaire, il est élu président en 1931. Il avait 75 ans. Une grande joie, mais une joie de courte durée, puisque moins d'un an plus tard, il est assassiné par un réfugié russe. C'est d'ailleurs notre dernier président assassiné.
Et qui a été notre plus vieux chef d'État ?
Eh bien, c'était pas le meilleur, Apolline, puisqu'il s'agit du maréchal Pétain. Hein. Il devient chef de l'État français en 1940 à 84 ans. C'est lui qui entraîne la France dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et c'est aussi lui, avec d'autres, qui organisera la déportation des Juifs de France.
En moyenne, quel âge avaient les présidents de la Ve République ?
58 ans et demi, c'est précis. Le plus vieux à avoir été élu la première fois, c'était le général de Gaulle. Hein. Il avait 69 ans. Rendez-vous compte, il s'est écoulé 19 ans entre l'appel du 18 juin 40 et son accession à la présidence. Hein. Comme quoi, il faut quand même être patient. Et une coïncidence méconnue, Emmanuel Macron va quitter le pouvoir à l'âge où François Mitterrand s'est présenté pour la première fois à la présidentielle en 1965, c'est-à-dire 49 ans. Conclusion, si vous voulez mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler d'Emmanuel Macron.
Merci Arthur Chevalier, ce portrait robot, la pyramide des âges des présidents de la République, avec Arthur Chevalier, donc historien d'Apolline Matin. Toute cette semaine, eh bien, on vous offre vos vacances, vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous allez remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Alors vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France, où Bellambra s'occupe des enfants, des activités, des repas. On y va, Mathieu.
Volontiers.
Je suis candidate, j'arrive. Allez, c'est le tout compris premium, donc des vacances Bellambra. Et pour remporter vos vacances Bellambra, vous envoyez dès maintenant vacances au 732-16. Vacances au 732-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, Jordan Bardella propose un cordon sanitaire contre la France insoumise pour les municipales. Le porte-parole du RN, Julien Odoul, sera mon invité. Est-ce que vous estimez qu'il faut être tous contre le RN, tous contre LFI, tous contre les deux ou aucun des deux? Tout simplement, vous nous appelez au 3216 pour réagir et interpeller donc Julien Odoul. Et puis ce matin, notre voix de droite, parce que c'est lundi, sur RMC, ce sera Charles Consigny. L'Europe veut augmenter de 50% le budget jet privé, oui, vous avez bien entendu, pour ses plus hauts responsables, pour la Commission européenne notamment. Mais pour qui se prennent-ils? Voilà ce que se demande Charles Consigny. Rendez-vous à 7h50. Il est 7h27, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Nangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La foire d'Empoigne au salon de l'agriculture où une rixe a éclaté hier soir sur un stand de nougat. 15 personnes ont été interpellées, 2 membres des forces de l'ordre légèrement blessés. Il va falloir s'armer de patience dans les zones sinistrées par les inondations car la décrue s'annonce très lente. Et puis le 15 de France a encore brillé hier face à l'Italie et se rapproche un peu plus du grand chelem dans le tournoi des 6 nations.
Ambiance très tendue hier soir au Salon de l'Agriculture.
Un salon sans vaches cette année, mais avec manifestement beaucoup de tensions. En témoigne la rixe qui a éclaté en fin de journée dès le deuxième jour de l'ouverture au public et qui a donné lieu à 15 interpellations, une altercation filmée dont vous avez pu visionner les images pour RMC, Rachel Sadodine.
Le ton monte entre un groupe de visiteurs et des exposants travaillant sur un stand de nougat. Ils en viennent aux mains, échangent des coups. Un homme brandit un large couteau en l'air avant de le jeter au sol. Le groupe se disperse quelques instants, mais la bagarre reprend cette fois-ci à coups de planche en bois. Oh, Plusieurs personnes sont blessées. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux et c'est là que deux individus, un jeune majeur et un homme d'une trentaine d'années, sont soupçonnés de s'en être pris à un policier et un gendarme, les blessant légèrement. Si le motif exact de cette rixe n'est pas encore déterminé, une source policière évoque la piste d'un crachat de visiteurs sur le stand de nougat.
Il est 7h32 sur RMC et ça y est, la décrue est amorcée dans l'Ouest. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Trois départements sont toujours en alerte rouge. La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Partout, la décrue s'annonce très lente. C'est notamment le cas au Pont-de-Cé, au sud d'Angers, où l'on retrouve Martin Lange en direct pour RMC. Martin, ici, les habitants s'organisent tant bien que mal, mais ils vont devoir s'armer de patience.
Oui, Élise, vous l'avez dit, la décrue a débuté, mais elle est très lente. Pour vous donner une idée, la Loire a atteint son pic hier à 5,47 m. Plus de 12 heures plus tard, elle est toujours à 5,41 m, seulement 6 cm de moins. Un niveau qu'elle n'avait d'ailleurs pas atteint depuis 30 ans. La vigilance est toujours de mise, donc pour les habitants, à l'image de Franck. Il habite sur les bords de Loire et il est obligé d'activer une pompe pour empêcher l'eau d'entrer dans sa maison.
Toutes les 20 minutes, donc autant dire qu'on ne dort pas de la nuit. On rallonge un peu maintenant le temps. D'ici quelques heures, on va passer à 25, et puis après une demi-heure, et puis après, on espère que ça sera fini. J'espère dans le courant de l'après-midi, on n'aura plus besoin d'utiliser les pompes. On tient à l'adrénaline, c'est tout. Hein.
De l'adrénaline et pas mal de débrouilles. Dans les quartiers inondés, on se déplace toujours en barque. Si le centre d'hébergement d'urgence ouvert par la mairie est vide, beaucoup d'habitants ont quitté leur maison inondée pour aller s'installer chez des voisins ou de la famille. Et certains commencent à trouver le temps long après d'une semaine que cette crue dure. Et le retour à la normale devrait encore prendre plusieurs jours, sans compter le nettoyage puis le séchage de la maison. Certains habitants rencontrés évoquent des semaines de boulot.
Martin Lange en direct des Pont-de-Cé dans le Maine-et-Loire pour RMC. Une décrue très lente qui inquiète beaucoup les agriculteurs, tout comme les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump après le revers infligé par la Cour suprême qui a invalidé tous ceux que le président américain avait mis en place jusqu'ici. De nouvelles surtaxes qui devraient entrer en vigueur demain, 10 puis 15%, soit déjà ce que paye l'Union européenne pour la plupart de ses produits, mais l'incertitude inquiète tout de même beaucoup Marion Gauthier.
Les taxes restent les mêmes, a priori, s'inquiète Jean-Marie Fabre. Le président des vignerons indépendants de France peine à suivre la Maison Blanche et insiste, les annonces et changements de règles douanières paralysent le commerce.
On a déjà eu quelques vignerons qui nous ont dit qu'ils avaient été appelés dans la nuit. Leurs importateurs leur ont dit, on va attendre, ne souhaitant pas prendre de risques sur les volumes qu'ils vont mettre dans des bateaux dont on ne sait pas à l'avance à quel tarif douanier ils vont être soumis.
L'instabilité aux États-Unis augmente aussi la concurrence au niveau mondial, ajoute Emmanuel Guichard, il est délégué général de la Fédération française des entreprises de la beauté.
Tous les pays qui exportaient vers les États-Unis, et nous l'exemple typique c'est la Corée du Sud, qui est un très grand concurrent pour les cosmétiques, essayent de trouver des débouchés dans d'autres pays du monde, donc se diversifier, en même temps que les entreprises françaises essayent aussi de se diversifier, à la fois pour limiter le risque aux États-Unis, puisqu'on voit bien qu'on a une politique qui est fluctuante, et à la fois pour essayer de retrouver d'autres marchés.
L'an dernier, le secteur des cosmétiques a perdu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis, et ça pourrait continuer, alerte-t-il. 6 000 emplois pourraient être menacés.
Et puis notez que l'ambassadeur des États-Unis en France est convoqué ce soir au Quai d'Orsay, Charles Kushner, qui va devoir s'expliquer après les récentes sorties de son administration sur la mort du jeune identitaire Quentin Deranque. 3 sur 5, les Bleus du rugby poursuivent leur très beau parcours dans le tournoi des Six Nations. Ils ont battu hier l'Italie 33-8. Le jeu était moins abouti, mais les hommes de Fabien Galthié sont toujours en course pour un grand chelem, Pierre Thévenet.
Oui, les Français s'attendaient à souffrir face à ces Italiens en progression. L'ouvreur Thomas Ramos n'a pas été déçu.
Ça a tapé plus que les deux premiers matchs. On avait préparé ce match très sérieusement et je crois qu'on a bien fait parce que l'intensité imposée par les Italiens en face était au rendez-vous.
Malgré le score large, 33-8, les hommes de Fabien Galthié ont été en difficulté en attaque et se sont appuyés sur une énorme défense saluée par leur sélectionneur.
Formidable prestation collective défensivement. Le jeu avec le ballon et le jeu sans le ballon, ça fait partie du jeu aussi. Je sais qu'en France, on est des romantiques. Et des fois, juste sans ballon, ça permet de gagner des matchs. Prédéline, on a eu deux ou trois possessions italiennes à défendre. Et ça a été formidablement bien défendu.
Avec ces trois victoires en autant de matchs, les Bleus sont seuls en tête du tournoi. Et à l'image du deuxième ligne, Emmanuel Meafou, il commence forcément à penser au grand chelem.
C'est le but pour tous les pays. Il nous reste le deux plus dur match de tournoi. On espère de continuer comme ça.
Pour continuer sur cette voie, rendez-vous dans deux semaines à Édimbourg, où le 15 de France affrontera l'Écosse, deuxième du classement provisoire.
Et puis eux sont de retour en France, gonflés à bloc pour le passage de relais des Jeux Olympiques d'hiver entre Milan Cortina et les Alpes 2030. Nos athlètes tricolores vont célébrer leur victoire à Albertville en Savoie, où sera délocalisé le Super Moscato Show pour l'occasion.
Et puis le quintet, Élise, les courses, c'est le Prix de Paris aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil.
Départ à 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC aujourd'hui avec le favori, c'est le numéro 9, Fanfaron. L'outsider, c'est le 2, Passionata.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, on a beaucoup de messages sur le WhatsApp RMC et notamment sur la politique.
Oui, on revient évidemment sur la marche de samedi dernier à Lyon dans vos messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424 avec Ali qui nous dit nos chers politiques, encore une fois, au lieu de rassembler, ne vont faire que diviser. Voilà ce que pense Ali à la fois sur cette marche de samedi et sur cette injonction, si j'ose dire, d'Aurore Berger qui appelle à un cordon sanitaire du Rassemblement National contre LFI. Julien, lui, nous écrit « Le jour se lève en ce jour de février 2026. On a des néo-nazis qui peuvent défiler librement, hurlant des slogans homophobes, xénophobes, racistes, tout en faisant des saluts nazis. Cette France a donc laissé tomber l'esprit des Lumières », nous dit Julien. On a ce message de Momo qui nous dit concernant la marche d'hommage à Quentin. N'oubliez pas que les parents se seront opposés à celle-ci. Ça, c'était en fin de semaine dernière. Rappelons aussi que, y compris Jordan Bardella, a appelé à ne pas forcément s'y rendre. Et puis Nas nous écrit « Je m'appelle Nassim, j'ai 44 ans, je suis cheminot. Mon frère a été témoin de la manifestation. Il m'a raconté énormément d'insultes racistes. » Voilà ce que dit Nas sur le WhatsApp RMC.
Et justement, dans un instant, mon invité, la politique, c'est le porte-parole du RN, Julien Odoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de Lyon et donc porte-parole du RN. Je vous interroge dans un instant cette question, tous anti-RN, est-ce que c'est en train de devenir tous anti-LFI ou même les deux? Et je vous la pose aussi à vous au 32-16. Appelez-nous pour réagir, il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Est-ce que désormais on est en train de passer du tous anti-RN au tous anti-LFI ? Bonjour Julien Odoul, vous
Bonjour,
êtes député de Lyon, vous êtes porte-parole du RN. D'abord cette marche samedi en hommage à Quentin, c'est confortable pour vous ? On a presque l'impression que désormais vous pouvez dire les fachos c'est pas nous.
Si vous me permettez, j'aimerais juste exprimer un mot de soutien pour votre consoeur Brigitte Boucher, qui subit depuis quelques heures un lynchage médiatique.
Alors là, vous passez complètement du coq à l'âne, mais en effet, Brigitte Boucher, qui voilà. est ma consoeur de France Info,
Exactement.
C'est à elle que vous faites référence, qui a interviewé Madame Obono, députée LFI, et qui depuis...
Je pense que ça en dit long, et ça rejoint le thème sur le cordon sanitaire, puisqu'elle subit un lynchage médiatique de la meute LFI, pour avoir juste interviewé Madame Obono et avoir rappelé les faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Je rappelle que Madame Obono...
En fait, elle n'a pas dit qu'il n'y avait pas de génocide, elle a dit que les instances juridiques, et d'ailleurs si on est tout à fait précis,
ils
parlent de génocide, mais ils parlent de risque de génocide, mais ils ne parlent pas pour l'instant de génocide avéré. Et effectivement, pour avoir dit ça, c'est vrai qu'elle est littéralement prise à partie sur les réseaux sociaux, et ça montre aussi la violence de notre époque.
Exactement.
Et donc, donc bon, vous vouliez marquer le coup, mais c'est quoi ? C'est pour dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même intéressant. Je vous interroge sur l'ultra-droite d'un côté. Vous me dites, en fait, en ce moment, les plus durs, y compris avec la classe médiatique, c'est LFI. Et donc, au fond, ça vous donnerait un rôle au milieu assez respectable. Est-ce que c'est aussi ça l'idée ?
Mais c'est pas un rôle respectable. Il s'agit pas d'avoir des brevets de respectabilité. Il s'agit de regarder les comportements des uns et des autres. Vous avez un parti qui est un parti passionnément antisémite, qui est un parti violent, qui appelle à la violence, qui a fait alliance avec un groupuscule fasciste, la Jeune Garde. C'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous avez le Rassemblement National, qui est un parti démocratique, républicain, respectueux de nos institutions. C'est factuel. Et là, aujourd'hui, il y a une menace concrète que l'on peut observer d'ailleurs dans les prises de parole des cadres de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui, depuis la mort de Quentin, jette de l'huile sur le feu, attise la violence, soutient toujours d'ailleurs la Jeune Garde et ses miliciens.
Il n'y a
pas
de mea culpa,
aucun mea culpa.
Sur le lien avec la Jeune Garde, en effet, de la part de Jean-Luc Mélenchon.
Et d'ailleurs, un soutien total à Raphaël Arnaud, qui a une responsabilité morale écrasante dans cette affaire, avec au moins l'un de ses collaborateurs qui est visé par le meurtre de Quentin. Donc il y a évidemment aujourd'hui la révélation, ou j'allais dire la confirmation, que la France Insoumise n'est pas un parti comme les autres, c'est un parti anti-républicain avec des méthodes qui peuvent aller jusqu'à la violence.
Vous appelez donc, vous dites effectivement qu'il y a une menace pour la République, qu'il y a même une sorte de lien entre la violence et LFI. Est-ce que vous irez jusqu'à ce que Aurore Berger, membre du gouvernement, vous demande, c'est-à-dire, chiche, retirez-vous si au deuxième tour, il y a des cas où LFI pourrait gagner une municipalité?
Ah, je pense qu'il faut qu'il y ait la réciproque. Effectivement, c'est assez amusant de voir Aurore Berger donner des leçons de cordon sanitaire, alors que son parti, et notamment depuis les appels de Gabriel Attal en 2024 lors des législatives, a fait élire bon nombre de députés de la France insoumise, dont Raphaël Arnaud. Très clairement, moi je me rappelle des désistements anti-républicains qui ont conduit à l'élection de bon nombre de députés de la France insoumise, parce que les macronistes ont préféré glisser un bulletin de vote LFI plutôt que de faire barrage à un parti qu'ils qualifiaient quelques semaines avant de dangereux pour la République.
Ça veut dire que vous considérez que Aurore Berger, au fond, se rachète une forme de,
oui,
je sais pas, de respectabilité elle aussi. On a quand même l'impression que c'est le jeu du moment. Hein.
Mais je pense qu'ils cherchent à faire oublier leur responsabilité. Et puis ce grave moment des législatives où ils ont fait entrer des députés LFI qu'on a pu voir antisémites, communautaristes, proches des mouvances islamistes qui bordélisent l'Assemblée depuis et qui sont aujourd'hui des facteurs de trouble.
Je vous repose la question, en cas de deuxième tour où LFI pourrait gagner une mairie, est-ce que vous pourriez vous retirer au profit d'un candidat qui serait, par exemple, Renaissance, en vous disant il vaut mieux Renaissance qu'à LFI?
Nous, contrairement aux autres, nous sommes clairs et nous sommes cohérents. Et effectivement, nous ne jouerons pas la politique du pire. Il y a une menace pour la République, nous l'avons dit. Jordan Bardella a appelé un sursaut contre l'extrême gauche. Et ces élections municipales vont être un grand révélateur. Et moi, j'observe que face à la clarté du Rassemblement National, vous avez les ambiguïtés du Parti Socialiste notamment, qui, malgré la mort de Quentin, malgré les liens avec la Jeune Garde, ce parti groupusculaire et ultra-violent, qui continue à dire qu'il y aura peut-être du soutien à LFI, qui continue à dire que dans le cas d'un second tour LFI-RN, ils voteront LFI. Malgré tout, moi j'observe que Jérôme Guedj, qui avait quelques semaines auparavant traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, nous dit qu'il voterait toujours pour LFI face au RN.
C'est juste, c'est ce qu'il a dit effectivement sur BFM TV ce week-end. Il a dit que, quoi qu'il arrive et malgré tout ce qu'il disait, il voterait toujours LFI si ça permet de battre le RN. C'est d'ailleurs aussi ce que jeudi soir à Marseille, Benoît Payan disait, si, il disait je ferai tout pour éviter cette situation, mais si toutefois de Logus, c'est-à-dire LFI, était au deuxième tour, il se retirerait au profit de LFI pour faire battre le RN. Je voudrais qu'on accueille Nadine qui nous appelle de Croissy-sur-Eure dans l'Eure. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour.
Nadine, ces histoires de cordon sanitaire, ça vous paraît dépassé ?
Complètement. Et puis cette expression cordon sanitaire, personnellement, je ne la comprends pas. C'est le nouveau Front Républicain, a priori. Il faut savoir que ça ne fonctionne plus. Enfin, ça fait longtemps que moi je le vois, parce que ça fait longtemps que je suis en politique, au PS de gauche, et que j'ai quitté parce que vu ce qui se passe, et notamment ce que vient de dire Julien Odoul par rapport à la position du PS en cas de
possible
victoire, vis-à-vis de LFI. J'ai quitté j'étais à Place Publique récemment, j'ai quitté Place Publique parce que justement, ils ont accepté, Glucksmann aujourd'hui dit non plus à LFI, mais il a accepté quand même en 2024 de s'allier. Bon, ça a donné le résultat qu'on connaît.
Le Front Populaire, le nouveau Front Populaire.
Oui, absolument. Et ça a donné le résultat qu'on connaît, parce que je suis dans une région où le RN est largement en tête, est arrivé en tête partout. Et quand on discute avec les électeurs, ils sont complètement perdus, mais moi personnellement, j'ai toujours voté blanc, je ne veux pas voter contre, j'ai toujours voté blanc. Après tout,
Si vous vous retrouviez dans un deuxième tour, LFI RN, vous votez blanc.
Ah bah, LFI, pour moi, c'est absolument impossible. C'est des antisémites notoires et je suis un peu concernée par l'histoire. Donc, pour avoir discuté des avoirs, affronté sur le terrain, ce sont des gens qui sont d'une violence, mais les militants sont à l'image de leur chef et des têtes de pont de LFI. Mais quand on les entend, mais c'est absolument insupportable.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous diriez quoi, Nadine? Vous diriez, en fait, c'est d'abord, ne faisons plus de consigne de vote, c'est aux électeurs de choisir. Mais pour vous, RN égale LFI.
Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. D'ailleurs, le RN a changé son image. Il faut arrêter.
Vous avez le choix entre les deux, vous continuez à voter blanc ou finalement vous voteriez plutôt RN contre LFI?
Je pense que peut-être je serais comme mes copains. Certains l'ont fait déjà. Je voterai RN, peut-être, oui, absolument, parce que je trouve que la LFI aujourd'hui est largement et bien plus dangereuse que ne peut l'être le RN, qui est dépeint comme un parti d'extrême droite. Alors, on
mais
parle de la marche.
Ça veut dire, Nadine, non, mais c'est très intéressant, Nadine. Ça veut dire que vous, qui avez toujours milité au Parti Socialiste, aujourd'hui, vous vous dites, ben, je finirai par voter RN contre LFI.
Oui, ben mes copains qui ont quitté le PS sont là aussi, hein, je suis pas la seule.
Ah non, mais je suis pas là pour juger, je dis juste que c'est étonnant et j'imagine que ça se fait dans la douleur quand même.
Ah ben oui, mais vu les positions que peuvent prendre les gens de gauche aujourd'hui, ils sont dans les communautarismes aussi, le PS aussi a largement fait pour aider à ce qu'on fasse monter les communautaristes, les antisémites, parce que c'est quand même la réalité. On a fait élire des gens, enfin je veux dire, c'est à marcher sur la tête d'entendre le PS parler comme ça. Quand j'entends Jérôme Gage, je suis sur le cul. Ben, je me dis,
Nadine, au moins les choses sont très claires, effectivement, on l'entend. Merci en tout cas, Nadine, d'être intervenu au 32-16. Lorsque vous entendez ça, Julien Odoul, vous dites qu'on est vraiment dans un moment de bascule ?
Oui, je le pense. Et effectivement, des électrices et des électeurs comme Nadine, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire des Françaises et des Français qui ont des convictions sincères. Nadine était une militante de gauche, républicaine, j'ai l'impression, attachée aux principes républicains. Et elle s'est sentie trahie par une gauche de compromission qui préfère toujours la soumission à LFI. C'est-à-dire la soumission à un parti passionnément antisémite qui fait le jeu du communautarisme, qui attise à la violence, qui dit que la police tue. Et je pense que bon nombre d'électeurs de gauche préfèrent voter
Et on a bien entendu, Julien Odoul, que effectivement, vous estimez que si votre présence au deuxième tour à un moment faisait gagner LFI, vous seriez prêt à vous retirer.
Nous ferons barrage à LFI, quoi qu'il arrive. Effectivement, c'est une menace pour la République, c'est un danger pour notre sécurité. Donc nous serons là, effectivement. Heureusement qu'il y a peu de communes, bien évidemment, où il y a un risque de l'accession d'un maire LFI.
Mais sur le principe, en tout cas.
Mais sur le principe, effectivement, nous serons intransigeants sur le cordon.
Merci, Julien Odoul.
Face à l'extrême gauche.
Julien Odoul, député de Lyon, porte-parole du RN. Merci à Nadine d'avoir témoigné et exprimé sa réaction au 32-16. Il est 7h50, c'est lundi. Et le lundi, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour, Charles.
Bonjour.
Charles, l'Europe veut augmenter le budget jet privé. Je ne savais même pas qu'il y avait un budget jet privé, pour tout vous dire. Un budget jet privé de ses plus hauts responsables.
Faut-il croire que ces hauts responsables se croient très très hauts pour ressentir le besoin de se déplacer en jet privé ? Je pense que il est urgent de supprimer cette initiative.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny, mais d'abord le bonus. Mathieu, avec un peu de rock français ce matin.
Avec des retours. Alors certains ont peut-être reconnu Superbus. Ils sont revenus sur le devant de la scène avec un 7e album. Et la tendance, Apo est au remake. Des groupes qui reprennent leurs titres, mais avec une nouvelle version, avec des invités. Et là, ce sont d'autres rockers que vous entendez des années 2000 avec Superbus, Kyo. Et la reprise donc du tube OK KO, mais à plusieurs, écoutez. Nouvelle version, nouvelle production, Superbus qui a invité Oshi ou encore Nicolas Sirkis d'Indochine à reprendre des chansons phares du groupe. D'ailleurs, Kyo, puisqu'on en parle, avait fait exactement pareil. Je veux juste une Dernière danse avec Cœur de Pirate. Ça, c'est pas la version d'il y a 20 ans, c'est une version récente. Les deux groupes qui font leur retour ces derniers mois, Kyo comme Superbus, qui sont annoncés à l'Accord Hotel Arena cette année, après 20 ans de succès. Donc, on a cette nouvelle version d'OK KO de Superbus avec Kyo.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite. Il est 7h53. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
Charles, c'est une info qui était passée un peu sous les radars ce week-end, mais que vous avez repérée. Elle a été révélée par nos confrères de Politico. Le budget jet privé. On apprend d'ailleurs qu'il y a un budget jet privé. Le budget jet privé de l'Union européenne augmenterait de 50% pour les 4 prochaines années. L'appel d'offres vient d'être lancé. Ça concerne notamment les plus hauts responsables de la Commission européenne, du Parlement européen. Et selon vous, Charles, c'est un scandale.
En tout cas, soi-disant, c'est pour desservir des destinations qui ne pourraient pas l'être avec des vols réguliers et pour aller dans des zones difficiles. Alors j'imagine l'Ukraine, mais j'ai cru comprendre qu'on allait en Ukraine qu'en train. Donc je ne sais quelles destinations dans lesquelles il faudrait que nos commissaires, et particulièrement ceux qui s'occupent des questions de diplomatie, prennent des jets plutôt que des avions de ligne. Moi, ce que je vois, c'est que c'est la continuation d'une espèce de folie des grandeurs qu'on a dans les instances européennes, puisque on les voit parfois quand ils viennent ici, les commissaires européens se déplacent dans de rutilantes BMW qu'on croirait sorties d'un palais dictatorial d'une région soumise à la dictature. Ils sont rémunérés quasiment 30 000 euros par mois qui sont nets d'impôts, puisque je vous rappelle que les fonctionnaires internationaux et notamment européens ne payent pas d'impôts. Tout ça ne comprend pas les notes de frais, et donc je crains qu'on soit dans cette espèce d'ivresse des sommets qui les conduise à penser que ils sont tellement importants que maintenant il faut non seulement qu'ils aient tout ça, mais qu'en plus ils se déplacent en jet privé.
Alors Charles, il faut quand même être honnête, ils disent qu'il y a des problèmes de sécurité, que l'instabilité internationale, le contexte géopolitique rend aussi ces déplacements à la fois parfois urgents et très sensibles. Est-ce que vous pouvez quand même entendre ces arguments ?
Non, parce que je pense que aucun problème de sécurité ne leur permet de penser qu'ils ne peuvent pas prendre un avion de ligne. Je ne vois pas en quoi vous êtes moins en sécurité dans un avion de ligne que dans un jet privé, sauf à considérer que les passagers des vols au départ ou à l'intérieur de l'Europe sont dans une situation d'insécurité. Vous savez, la sécurité, c'est le prétexte qu'a invoqué Madame Borne, par exemple, pour refuser de rendre son chauffeur en disant que si elle se déplaçait normalement dans les rues de Paris, elle aurait des problèmes de sécurité. Souvent, elle a bon dos, la sécurité, pour justifier ce qui me paraît, moi, être un luxe absurde, surtout venant d'institutions depuis lesquelles on nous bassine jusqu'à nous réglementer notre vie quotidienne, avec l'écologie. Il faut quand même voir que l'Europe, si elle a un cheval de bataille entre tous, c'est quand même l'écologie, y compris l'écologie la plus punitive, qui fait, par exemple, il y a peut-être des gens qui sont au ski en ce moment, en Savoie, vous n'avez plus le droit de faire du feu dans votre cheminée, par exemple, à cause des règles écologiques européennes. Donc, si vous voulez, compte tenu de leur idéologie, de leurs résultats, Madame von der Leyen a montré quand même sa nullité absolue quand elle s'est retrouvée humiliée par le président Trump comme une petite fille dans son bureau. Moi, payer un jet privé à Madame von der Leyen pour qu'elle aille se faire humilier par des dirigeants étrangers, je suis désolé, j'estime que mes impôts sont mal utilisés.
C'est clair et net et c'est signé Charles Consigny. Merci Charles, la voix de droite tous les lundis. Demain à 7h50, ce sera la voix de gauche Cécile Duflot sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une les ravages des inondations à Sainte, en Charente-Maritime. Et puis on va faire un point complet sur la météo avec Géraldine Demory. Il y a toujours une vigilance rouge crue maintenue dans 3 départements. Juste après le journal, ce sera l'économie. Avec vous, Emmanuel Lechypre. Emmanuel, les réseaux sociaux, c'est de l'arnaque ?
C'est de l'arnaque. Les petites annonces frauduleuses pullulent.
Et vous allez nous aider à y voir plus clair. On se retrouve dans un instant, il est
7h57. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellent lundi à tous, on est bien sur RMC et il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et à 8h, nous serons sur le chemin de l'école qui reprend ce matin. Les pieds dans l'eau dans les villes encore inondées de l'ouest de la France. À Sainte, par exemple, les écoles ont été obligées de s'organiser. Nous irons aussi dans un petit village de Bretagne où personne ne veut se présenter aux élections municipales. C'est pourtant les derniers jours pour déposer les listes. Et nous serons également dans les Alpes, dans ce journal où les médaillés français des Jeux Olympiques seront célébrés en fin de journée.
Et c'est une rentrée de vacances très particulière ce matin dans l'ouest de la France.
Oui, puisque l'école reprend dans la zone A, c'est la zone de Sainte, une des villes encore inondées, et où la reprise se fait donc les pieds dans l'eau à cause de la crue de la Charente. Pierre Bourgès, vous êtes en direct de cette ville de Sainte ce matin pour RMC, et vous nous dites qu'il a fallu tout repenser pour cette rentrée.
Ben oui, exactement, Quentin. On se prépare ce matin. Je me trouve devant l'école Pasteur, dans le centre de Saintes. Les agents périscolaires sont arrivés il y a à peu près une demi-heure. Les professeurs aussi, ils sont prêts à accueillir deux classes supplémentaires aujourd'hui. Il s'agit en fait d'élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Paul Bert, qui restera quant à elle fermée aujourd'hui à cause des inondations, tout simplement. Et alors, eh bien, comment on s'adapte? Écoutez cette agente de Paul Bert, l'école fermée, venue en renfort ce matin ici.
Tout a été bien programmé pour que ça se passe au mieux pour les familles et surtout pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est un changement pour eux. Donc effectivement, accompagner les enfants qui vont être de notre école pour qu'ils se sentent au mieux dans cette nouvelle cour. Mais de toute façon, il faut qu'on s'adapte. Il n'y a pas trop de choix.
Faisons le point ce matin sur ce qui change à Saintes. Au total, 5 établissements différents de la ville vont accueillir 8 classes venant des 3 écoles fermées à cause des crues. C'est la solution qu'a trouvée la mairie pour pouvoir assurer cette rentrée des classes. Pour le moment, la décrue s'annonce lente, très lente. Les écoles impactées par les inondations pourraient donc être restées fermées toute la semaine. Il y a tout de même une bonne nouvelle. Après plus d'un mois de pluie, la rentrée scolaire à Saintes va se faire au sec.
Et ça fait du bien. Pierre Bourgès, effectivement, les bonnes nouvelles. Un peu plus au nord, le niveau de l'eau va baisser, mais alors seulement d'une dizaine de centimètres aujourd'hui à Angers, où un réseau de 2 km de planches surélevées, souvent des planches en bois, a été bricolé en fait pour permettre aux habitants de ne pas marcher les pieds dans l'eau. Aux États-Unis, c'est une tempête de neige qui touche la ville de New York. Quasi confinement décrété là-bas, interdiction carrément de se déplacer, la ville est à l'arrêt. Tempête la plus violente depuis 10 ans, nous dit-on, jusqu'à 70 cm de neige attendue là dans les prochaines heures. C'est la deuxième depuis le début de l'année et on se souvient que la première avait fait une centaine de morts. Le climat s'est à nouveau tendu ce week-end entre la France et les États-Unis avec l'affaire du militant, la mort du militant nationaliste Quentin Derenck à Lyon, vous souvenez, il y a 10 jours. L'ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, proche de Donald Trump, est à nouveau convoqué au Quai d'Orsay. Ce sera aujourd'hui, en fin de journée. Pour les commentaires américains sur cette affaire, l'administration Trump ayant dénoncé, je cite, « l'extrémisme violent de la gauche en hausse dans le pays ». Sonia Gobry, du service politique à RMC, cette intervention déplaît à la France.
Pour le chef de la diplomatie française, c'est de l'ingérence, d'où cette réponse ferme. Nous refusons toute instrumentalisation à des fins politiques de la mort de Quentin Derenck. Et Jean-Noël Barrot ajoute que la France n'a aucune leçon à recevoir de ce qu'il appelle l'international réactionnaire. Après ce premier recadrage, l'ambassadeur des États-Unis est donc convoqué ce soir à 19h au Quai d'Orsay, selon une source diplomatique, mais elle n'est pas en mesure de dire qui recevra Charles Kushner. On ne sait pas non plus s'il sera présent. En août dernier, il a déjà été sommé de s'expliquer après des critiques jugées inacceptables par Paris sur l'absence d'action suffisante contre l'antisémitisme. Mais le diplomate américain a séché la convocation. Il a envoyé un chargé d'affaires à sa place.
C'est une course contre la montre qui commence ce matin dans de nombreuses communes puisque c'est la dernière semaine pour déposer les listes des municipales. Il y a jusqu'à jeudi en fin de journée pour le faire. Et alors le souci, c'est que par endroit, personne ne veut devenir maire. Un exemple avec vous, Thomas Becker du service politique à RMC, le village breton de Kermaria-Sulard, où le maire ne se représentera pas.
Oui, Pierre Ousset fait le tour de sa commune pour rappeler le rôle du maire.
Moi, je ne suis pas le maire de la commune. Quand je me présente, je dis je suis l'animateur de la commune.
Engagé dans sa commune depuis plus de 30 ans et maire depuis 2020, à 74 ans, il veut passer la main.
Ça veut dire à mon épouse que je faisais un mandat. J'ai fait 70 heures par semaine.
Une tâche à plein temps, d'où la difficulté pour constituer une liste. Et d'ailleurs, quand on cherche dans le village, difficile de trouver des volontaires. Emmanuelle n'a pas le temps, elle est déjà présidente des parents d'élèves.
On ne peut pas être et engagé au niveau associatif et dans les communes, on ne peut pas être partout. Surtout quand on a des enfants en bas âge aussi.
Être élu, c'est aussi attirer les critiques. Un rôle qui n'est pas fait pour tout le monde, estime Thomas.
Cette tâche qui peut être amener de la confrontation. Voilà, faut aussi imposer ses idées, imposer ses joies.
Guy, élu municipal, est en première ligne pour essuyer les critiques. Il aimerait bien que les gens s'engagent.
On peut aller à l'extérieur, mais au moins on s'investit. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Bah, où se péter, venez prendre la place. Et puis, vous verrez ce que c'est.
Ils cherchent toujours des volontaires, car sans liste, la commune risque d'être mise sous la tutelle de la préfecture. Il y en a eu une centaine lors des précédentes élections municipales.
Et alors, c'est la tradition, et encore plus en période de campagne électorale, les responsables politiques qui vont défiler toute la semaine, vous allez les voir au Salon de l'Agriculture à Paris. Évidemment, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est sur place et elle va présenter aujourd'hui un plan d'action visant à renforcer la place des femmes dans le secteur. Les chiffres montrent qu'elles sont de moins en moins nombreuses dans ce secteur très masculin. La preuve, écoutez avec Marion Degas pour RMC.
À 16 ans, Mathilde projette déjà de reprendre l'élevage de moutons de son père, mais pour certaines tâches trop physiques, elle doit trouver des solutions.
Il y a des choses comme retourner un bélier, je ne vais pas pouvoir le faire avec ma force à moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été faites, comme les cages de retournement par exemple pour faire les ongles des pieds des animaux, pour que nous les femmes on puisse le faire.
Cyrielle étudie en lycée agricole, dans sa classe elles sont seulement 7 filles pour 40 garçons.
40 garçons, c'est pas toujours évident, enfin faut montrer qu'on a du caractère, qu'on se laisse pas faire.
Audrey, elle jongle entre sa vie à la ferme et sa vie de maman.
Pour l'instant, mon fils va en crèche, donc il y a des horaires à respecter, sauf que l'élevage continue malgré tout.
Et elle a une angoisse.
Elle manquait certains moments de la vie quotidienne. On aimerait passer les dimanches matins avec lui.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, s'attaque justement à ce sujet.
Il faut des systèmes de garde adaptés à la vie rurale, organiser les services de remplacement, parce qu'aujourd'hui, les femmes retravaillent même pendant leur congé de maternité.
En remplaçant et à 6 mois de grossesse, une agricultrice m'a même confié avoir dû se charger seul du vélage d'une de ses vaches.
Et notez que les grandes gueules, les GG, seront en direct du salon de l'agriculture ce matin, en direct du stand des Hauts-de-France. Ils y sont de 9h à midi, n'hésitez pas à aller les voir.
Les Jeux Olympiques, ils sont terminés en Italie.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Passage de témoin avec la France hier soir lors de la cérémonie de clôture aux arènes de Vérone. C'était magnifique. Les présidents des régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes ont récupéré le drapeau olympique. Mais la fête n'est pas finie puisque les médaillés français sont célébrés en fin de journée à Albertville. Léna Marjac, on va rapidement se tourner sur les JO 2030 dans les Alpes françaises.
Comme un symbole, 34 ans après les Jeux d'Albertville, le drapeau olympique revient en terre française. Au lendemain des JO de Milan-Cortina, place donc à Alpes 2030. Pendant cette journée festive où Albertville sera le cœur de l'olympisme, les médaillés du biathlon, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, la skieuse Romane Miradoli ou encore Emilia Ropp, championne olympique de ski alpinisme, seront tous célébrés devant plus de 6000 personnes au cœur de la halle olympique d'Albertville. Un moment de communion entre le public, d'anciens sportifs des JO de 92, mais aussi avec les athlètes paralympiques qui débuteront leur JO dans 2 semaines. Puis, pour clôturer cet événement, les chasseurs alpins du régiment de Savoie déploieront le drapeau olympique lors d'une descente en rappel le long du mât.
Et le Super Moscato Show sera en direct d'Albertville cet après-midi pour revenir notamment aussi sur la victoire de l'équipe de France de rugby 33-8 hier contre l'Italie. 3e victoire en 3 matchs dans le tournoi destination. Le prochain, dans 2 semaines, ce sera en Écosse.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08, place à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, plus d'une annonce sur 4 diffusée sur les réseaux sociaux, c'est en fait une arnaque.
28% exactement des annonces publicitaires diffusées sur les plateformes des réseaux sociaux en France sont des arnaques. C'est ce que montre une étude des chercheurs de Gen Street Labs. Étude réalisée sur les réseaux sociaux de Meta. Les réseaux sociaux de Meta, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Facebook. C'est le 2e plus gros acteur de la publicité numérique dans le monde, mais il n'y a pas de raison que ce soit mieux sur les autres réseaux sociaux. Arnaque qui serait le produit d'une véritable industrie, puisque plus de la moitié de ces fausses publicités proviennent de seulement 10 annonceurs, souvent localisés en Asie du Sud-Est, notamment en Chine et à Hong Kong.
Et quand on parle d'annonces bidons, on parle de quoi exactement ?
Alors, beaucoup de contrefaçons de grandes marques. On vous propose de la bijouterie, de la maroquinerie, de la mode, des montres notamment, à des prix extrêmement bas. C'est aussi beaucoup de placements financiers qui promettent des rendements totalement fous, avec des témoignages truqués à l'intelligence artificielle de patrons, de journalistes, voire de ministres qui vous encouragent à investir. Il y a une pub célèbre de Bernard Arnault, par exemple, qui en gros vous dit « Donnez-moi 500 euros, au bout d'un mois, vous aurez 20 000 euros. » Moi, j'ai des fausses pubs où je donne des,
oui, avec des avec
investissements. Alors un peu avec une voix neurasthénique, voilà. Mais bon, c'est attention, ne vous laissez jamais prendre. Aucun journaliste ne vous donnera jamais des conseils d'investissement dans telle boîte ou dans telle boîte. C'est aussi les fausses boutiques en ligne avec des promotions délirantes, les moins 70%. C'est des faux concours cadeaux, c'est des produits santé miracle, des faux emplois. Beaucoup de propositions aussi, vous savez, pour télétravailler et où ça vous rémunère grassement en fait en faisant pas grand chose. Meta a annoncé avoir retiré plus de 134 millions, je dis bien millions, d'annonces mensongères sur ces plateformes. Et pourtant, les Français auraient perdu plus de 7 milliards d'euros à cause d'arnaques en ligne en 2025, nous dit l'Alliance mondiale anti-arnaque. C'est 750 euros en moyenne par arnaque.
Ah ouais, quand même. Alors ça veut dire que les Français ne sont pas assez préparés, éduqués, pas assez vigilants.
Exactement. Ça, c'est ce que montre une étude que vient de publier l'INSEE. 34% des plus de 16 ans ont des lacunes en matière de compétences numériques. 55% chez les plus de 60 ans. Alors, ça va à peu près pour envoyer des mails, appeler par Internet, consulter son compte bancaire. Par contre, c'est vraiment pas terrible dans notamment tout ce qui concerne la protection et la confidentialité des données et de la vie privée.
C'était l'économie avec Emmanuel Le Chypre, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Notez qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. Des saluts nazis dans la marche en hommage à Quentin Derenck. La question du cordon sanitaire contre LFI. Est-ce qu'on est en train de passer du tous anti-RN au tous anti-LFI? Quelle position doit avoir la gauche et le Parti Socialiste? Réponse donc de Bernard Cazeneuve. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 sur RMC et sur RMC Story. Alors, il a pris quelques jours de vacances, mais il est quand même présent. On en a gardé le meilleur d'Arnaud Demange.
Bonjour les amis. Allez, pour démarrer la journée, un sourire, Apolline. Car on va parler du député Rassemblement National, Mathias Renaud. On s'est foutu de sa gueule partout, mais pas encore ici. Et c'était pas très juste. Il était temps de réparer. Parce qu'il a voulu supprimer les subventions du festival Les Transmusicales de Rennes. Il croyait que c'était un festival de promotion des transgenres dans la musique. Donc ça aurait été quoi? Un festival avec que Raïm Redcar, anciennement Christine and the Queens, qui s'appellera Frigidaire Tournebeuf l'année prochaine. On ne sait pas. Mais bon, Mathias Renaud, il faut faire attention. Transavia n'est pas une compagnie aérienne avec des avions pilotés par des drag queens.
Salut les loulous, ici Lolita Banana, votre pilote assisté du commandant Zouzou Barbichou. La température en cabine est très chaude.
Caliente.
Le décollage est immédiat, même si c'est pas facile de piloter avec des talons et des ongles de 20 cm. Attachez vos ceintures, c'est parti pour toute la night.
Et le pauvre Mathias Renaud.
Faites-moi descendre !
Cuisse de poulet ou queue de lotte ?
Je veux sortir d'ici !
Donc, les pays transfrontaliers, c'est pareil. Il n'y a pas de transgenre à toutes nos frontières, voilà. À part en Allemagne, avec des femmes de 95 kilos de muscles et une moustache. Et si tu prends un transsibérien, c'est pas Vladimir Poutine sous œstrogène qui te fait l'amour. Sa vie doit être un enfer.
La France a envoyé des soldats au Groenland pour un exercice avec plusieurs pays européens, suscitant la fureur de Donald Trump.
Oui, c'est fou, hein. Les États-Unis et le Danemark se disputent le Groenland alors qu'il y a 6 mois, tout le monde s'en foutait. Ça me rappelle un peu quand le gouvernement et les insoumis se sont mis à se battre pour avoir le PS.
Ah ouais.
Voilà. Le Groenland, c'est le Olivier Faure du monde occidental. Le Groenland ne veut pas rejoindre les États-Unis. Mais alors, à leur décharge, Trump les a mal dragués quand même. C'est un mauvais dragueur, Trump, on va pas se mentir. Je dis pas ça pour critiquer sa femme, elle est très bien, sa femme, même si la mienne est mieux. Oh, et qu'en plus, elle est moins chère. Mais pour conquérir le Groenland, au lieu d'aller les baratiner en leur disant « J'adore votre culture, vos paysages, votre singularité », il leur a juste dit « J'ai besoin de votre pays pour m'en servir comme bouclier antimissile ». Alors vraiment, c'est comme draguer une meuf en lui disant « J'ai besoin de toi pour me soulager 2 fois par semaine
oh ».
Et on fera des bébés pour qu'ils payent nos retraites. C'est pas glamour.
Le gouvernement va envoyer une lettre à tous les Français de 29 ans.
Oui, la France, comme Jeffrey Epstein, a besoin d'enfants. Oh. Alors par contre, une lettre de Le Cornu pour relancer la natalité. Oui. Est-ce que ça vous motive,
Pauline? J'ai un petit doute sur l'efficacité.
Est-ce que, tu recherches les célibataires les plus fertiles à moins de 5 km de chez toi? Tu veux rencontrer les géniteurs les plus chauds de ta région? Alors inscris-toi sur France Levrette. Et inscris-toi à la crèche aussi, parce qu'il y a 3 ans d'attente. Voilà. Si vous appelez ça, c'est parce que vous avez appelé un numère au vert.
Elle est bonne. Au vert, elle est excellente.
Moi, j'aurais proposé à Bruno Le Maire d'écrire la lettre.
Ah oui.
Citoyenne, tu es chaude et moite.
Oh non.
Et soudain, tu aperçois un cotisant français torse nu sur une plage de sable fin. L'envie de créer un nouveau ménage imposable fait durcir tes mamelons patriotes.
T'es sûr, Bruno? Il y a quelques années, souvenez-vous, on disait pas ça, on disait attention à la surpopulation, ne faites pas d'enfants, c'est du carbone, oui. Ça rendait tout le monde coupable. D'ailleurs, moi, c'était ma défense numéro 1 pour prendre l'avion. Je disais, m'en fous, j'ai pas d'enfants. Ouais, mais ça veut pas dire que t'as le droit de prendre l'avion. Non, ça veut dire que j'ai les moyens de prendre l'avion.
C'était le meilleur d'Arnaud Demange. Et à 8h18, je voudrais qu'on puisse féliciter Arnaud. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Pauline.
Arnaud, c'est vous qui avez gagné, félicitations.
Eh ben, en tout cas, écoutez, un grand merci, super content. Merci RMC, parce que je suis un fidèle auditeur depuis au moins plus de 15 ans. Voilà.
Et donc, bah, ça paye.
Exactement, ça paye. En tout cas, vous êtes tous super, ne changez rien. Je suis vraiment très, très ému. Et,
écoutez,
une bise à toute l'équipe.
On est très content pour vous. Très content pour vous. Arnaud, vous vivez où?
Alors, j'habite dans les Ardennes, à Noyers-Pont-Mougins, dans un petit village près de Sedan.
Alors, vous allez pouvoir donc gagner ce séjour. Vous l'avez gagné, hein, donc une valeur de 2000 euros. Vous allez pouvoir partir une semaine dans les clubs et hôtels Bellambra. Vous savez déjà où vous avez envie de partir?
Oui, dans le sud de la France.
Ah, dans le sud, au soleil.
Exactement.
On en veut du soleil.
Dans le nord, forcément.
Je vous comprends tellement. Merci Arnaud, en tout cas, de votre fidélité.
Et
on est très, très heureux de pouvoir vous récompenser avec ce séjour que vous avez gagné. On vous fait gagner toute la semaine vos vacances sur RMC dans Apolline Matin. Il est 8h19. Et dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. On va revenir évidemment sur la manifestation de samedi, mais aussi sur la position du Parti Socialiste vis-à-vis de LFI. Y a-t-il un avant et un après Quentin? Quelle doit être la position du Parti Socialiste? Vous savez quoi? Je vais le faire réagir aux propos de Nadine. Vous l'avez peut-être entendu, cette auditrice, ancienne militante du Parti Socialiste, qui aujourd'hui se dit eh bien, que s'il y a LFI face au RN, elle serait plutôt tentée de voter RN. J'interroge Bernard Cazeneuve dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Ambiance tendue hier soir au Salon de l'Agriculture où une rixe a éclaté sur un stand de nougat. 15 personnes ont été interpellées, 2 membres des forces de l'ordre légèrement blessés. Pour l'heure, on ne connaît pas le motif de cette altercation. Son retour était très attendu. Le guichet MaPrimeRénov rouvre aujourd'hui. Après 2 mois de suspension, faute de budget, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique fait son retour à midi pour déposer vos dossiers. Avec une nouveauté, le rendez-vous obligatoire pour les travaux d'ampleur afin de limiter les fraudes. L'ambassadeur des États-Unis en France, convoqué ce soir au Quai d'Orsay, Charles Kushner, qui va devoir s'expliquer après les récentes sorties de l'administration Trump sur la mort en France du jeune identitaire Quentin Derenque. 3/5, les Bleus du rugby poursuivent leur très beau parcours dans le tournoi Destination. Ils ont battu hier l'Italie 33-8. Eux sont de retour en France, gonflés à bloc pour le passage de relais des Jeux Olympiques d'hiver entre Milan-Cortina et les Alpes 2030. Nos athlètes tricolores vont célébrer leur victoire à Albertville en Savoie. Dans l'Ouest, ça y est, la décrue est amorcée, mais elle s'annonce lente. Et ce matin, 3 départements sont toujours en alerte rouge. La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. 3 autres en vigilance orange. Vendée, Sarthe et Charente. La journée sera plutôt calme aujourd'hui. Malgré quelques pluies faibles des pays de la Loire au Grand Est. Soleil dans le sud de l'Aquitaine, à la Méditerranée avec pas mal de mistral et de tramontane. Beaucoup de douceur pour tout le monde. Cet après-midi, il fera entre 12 et 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Dans le détail, ça commence à 11 à Aurillac, 12 à Lille, 14 degrés à La Rochelle, Rouen, Nancy et Strasbourg, 16 à Grenoble et Nice, 18 à Ajaccio, 21 à Montpellier et 22 degrés à Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité est ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Il avait quitté le Parti Socialiste au moment des alliances avec LFI. Aujourd'hui, il dit, voilà, je l'avais prévu. Et il demande à ce que le Parti Socialiste soit extrêmement clair sur les alliances. Donc c'est Bernard Cazeneuve, mon invité, dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez aujourd'hui une forme de réserve, je dirais. Vous parlez assez peu, mais si vous voulez vous exprimer ce matin, c'est parce que pour vous, nous sommes dans un moment charnière. Vous aviez quitté le Parti Socialiste en 2022 après l'accord passé avec la France Insoumise, une formation politique dont j'ai eu à subir la violence, dites-vous. On va y revenir, mais pour vous, aujourd'hui, ça n'est que la confirmation de ce que vous aviez vu, une forme de rupture entre LFI et le Parti Socialiste.
D'abord, nous étions très peu nombreux en 2022 à... Ça nous indignait de l'alliance qui avait été signée entre le Parti Socialiste et LFI. Et lorsque le nouveau Front Populaire a été constitué en 2024, j'étais le seul à indiquer que cette alliance, par son programme, par l'arrimage à LFI, posait un problème politique majeur. Aujourd'hui, que constate-t-on ? On constate que tout ce qui avait été pressenti concernant cette formation politique, sa pente antisémite, sa violence extrême, sa relation ambiguë aux institutions de la République et aux principes de l'État de droit, tous ces sujets ressurgissent. Ils ressurgissent de manière violente parce que l'organisation elle-même est violente et tout cela pose un problème politique et morale éminent. Voilà où nous en sommes et je pense qu'il faut en tirer désormais toutes les conclusions en rompant définitivement avec la France insoumise, ce qu'un certain nombre d'élus commencent à faire. J'ai vu que la maire de Rennes avait indiqué hier qu'il n'y aurait d'alliance ni au premier ni au second tour. Et moi je souhaite que la gauche de gouvernement, la gauche humaniste, la gauche héritière de Blum, de Jaurès, de Pierre Mendès France, de Camus, de Robert Badinter prennent des positions extrêmement claires et rompent définitivement avec la France.
Ça veut dire que lorsque vous entendez encore aujourd'hui les dirigeants du Parti Socialiste qui prennent leur distance mais qui disent toujours qu'au cas par cas, il pourrait y avoir des alliances, vous vous dites non, fini, jamais.
Jamais. Je pense que nous ne redresserons pas politiquement le pays au moment où le risque principal est celui de l'extrême droite, si nous maintenons ce type d'ambiguïté. Lorsque la situation est aussi grave qu'elle l'est, que le risque de basculement est aussi visible qu'il l'est, il n'y a qu'une réponse possible, celle de la plus grande clarté.
Avec une question qui est quand même, est-ce que en disant tout sauf LFI, vous n'êtes pas en train de faire en quelque sorte un passage de relais au RN. Je voudrais vous faire écouter les propos de Nadine. Nadine, elle a été pendant très longtemps militante au Parti Socialiste avant de rejoindre Place Publique. Et comme vous, elle a quitté Place Publique en 2024.
Mais moi, été membre de Place Publique.
Non, pas Place Publique, mais elle a quitté la gauche. Vous-même, vous aviez quitté le Parti Socialiste. Elle était à ce moment-là à Place Publique. Mais elle les a quittés pour les mêmes raisons que vous, c'est-à-dire à cause de l'alliance qui avait été passée, le nouveau Front Populaire. Eh bien, Nadine, elle m'a appelé sur RMC ce matin. Pour elle, je voudrais que vous puissiez justement l'écouter et réagir. Pour elle, au fond, désormais, il en va d'être même finalement à aller voter pour le RN contre LFI. Écoutez. Ça veut dire, Nadine, non mais c'est très intéressant, Nadine, ça veut dire que vous qui avez toujours milité au Parti Socialiste, aujourd'hui, vous vous dites, ben, je finirai par voter RN contre LFI.
Oui, bah mes copains qui ont quitté le PS sont là aussi, hein, je suis pas la seule.
Ah non, mais moi je suis pas là pour juger, je dis juste que c'est étonnant et j'imagine que ça se fait dans la douleur quand même.
Ah ben oui, mais vu les positions que peuvent prendre les gens de gauche aujourd'hui, ils sont dans les communautarismes aussi, le PS aussi a largement fait pour aider à ce qu'on fasse monter les communautaristes, les antisémites, parce que c'est quand même la réalité. On a fait élire des gens, enfin je veux dire, c'est à marcher sur la tête d'entendre le PS parler comme ça. Quand j'entends Jérôme Gage, je suis sur le cul.
Bernard Cazeneuve, qu'est-ce que vous dites à Nadine ? Elle va voter RN contre LFI.
Je pense qu'elle a tort et je ne suis pas du tout sur cette position-là. Pour moi, le principal adversaire, celui contre lequel il faut se mobiliser, c'est le Rassemblement National parce que c'est lui qui est en situation de prendre les rênes du pays. C'est précisément parce que je ne veux pas du Rassemblement National que je préconise la plus grande clarté dans l'alliance avec la France Insoumise, parce que la France Insoumise est une machine à fabriquer du vote RN, par ses outrances, par ses excès, par la violence qu'elle finit par instaurer dans la vie politique, avec les groupes d'extrême droite. Ces deux groupes se font face. Jean-Luc Mélenchon avait théorisé d'ailleurs sa stratégie il y a 10 ans, en disant qu'à la fin, il y aurait eux et nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait LFI et RN, qu'il faut qu'il y ait une autre voie. Et c'est précisément parce que le RN est en situation de prendre le pouvoir en France que je ne veux pas de cette alliance avec LFI, parce qu'on voit que LFI, par ses comportements, engendre du vote RN. Jean-Luc Mélenchon, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. À chaque fois qu'il bouge un bras, il fabrique une voix RN. Et c'est
pour
ça
vous,
qu'il faut
Jean-Luc
arrêter.
Mélenchon fait monter le RN.
Mais tout dans la stratégie et l'attitude de LFI est destiné à organiser la confrontation entre LFI et le Rassemblement National. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a théorisé en disant « à la fin, il y aura eux et nous ». C'est leur stratégie, c'est leur volonté commune. Faut-il, si l'on est républicain, et si on veut absolument éviter le basculement du pays vers le dégagisme et la violence extrême, encourager cette stratégie en prenant la position que Nadine prenait tout à l'heure? Non. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que cette confrontation n'ait pas lieu en créant les conditions d'une autre voie. Et cette autre voie, c'est le rassemblement des Français autour d'une stratégie claire concernant la relation avec les dégagismes et notamment pour ce qui concerne la gauche avec LFI. Et la
un rassemblement.
Un rassemblement le plus large
mais
possible.
Mais ça veut dire quoi le plus large possible? On va y venir. Mais vous savez quoi, Bernard Cazeneuve? Je voudrais quand même vous interroger sur les propos. Nadine évoquait la question de Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, il fait partie de ceux qui ont été les plus virulents à l'encontre de la France insoumise.
Mais il a eu raison.
Et aujourd'hui, il dit, je ferai toujours tout pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement National et la France insoumise. Je préfère voter pour le candidat tel quel qu'il soit face au Rassemblement National, même s'il est LFI.
Mais je pense que Jérôme Guedj a été extrêmement courageux dans les positions qu'il a prises au cours des derniers mois. Et il en a subi les conséquences dans ses circonscriptions.
Et pourtant, aujourd'hui, il dit « je voterai LFI ».
Je pense qu'il tombe dans un piège quand il prend cette position-là. Je pense que nous ne devons pas acter une confrontation dont nous ne voulons pas. Nous devons tout faire par notre stratégie, par notre parole, par notre volonté pour l'éviter. Moi, je ne choisis pas entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin.
Manuel Valls dit que lui, il voterait blanc
mais
dans ce cas-là.
Je pense que Manuel Valls, quand il dit cela, tombe également dans un piège.
En fait, vous ne voulez même pas répondre à cette question.
Je pense que cette question-là, en y répondant, on accrédite cette confrontation qui est la confrontation dont rêvent les dégagismes qui, dans leur face-à-face, veulent occuper tout l'espace
politique. Enfin, moi, je veux bien
moi,
que vous rêviez que cette situation n'existe pas, mais tout
mais
de même.
Je pense que c'est tout à fait possible que cette confrontation n'existe pas, d'abord parce que dans l'état actuel du paysage politique, LFI n'a aucune chance de gagner les élections présidentielles. La seule utilité d'LFI, c'est de permettre au RN de la gagner pour qu'ensuite cette confrontation se poursuive une fois que le RN sera au pouvoir. Et je constate aussi que si le rassemblement des Français est possible entre ces deux dégagismes, alors nous les éviterons. Et quiconque est républicain et responsable doit tout faire pour ouvrir cette voie. C'est la stratégie que je préconise.
On va y venir, ce rassemblement le plus large possible du centre et de la gauche. Mais un mot sur l'expression que vous avez utilisée. Vous avez dit, à propos d'LFI, c'est une formation dont j'ai eu à subir la violence. J'ai retrouvé les mots de Jean-Luc Mélenchon à votre endroit. Il a parlé de vous comme, je cite, « le gars » qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraîche. Le gars qui a fait gazer toutes les manifestations et qui prend maintenant sa tête de petite Sainte-Nitouche. Rémi Fraîche, il faut le rappeler, c'était ce militant ce militant écologiste tué par l'explosion d'une grenade lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la mobilisation contre le projet de barrage de Sivens. À l'époque, vous étiez le ministre de l'Intérieur. Vous étiez, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, je cite, « le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraîche ».
J'ai porté plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon après ses propos. Il est venu d'ailleurs à votre antenne pour expliquer que tout cela était excellent, que la vérité serait faite. Plusieurs convocations lui ont été adressées. Il ne s'est pas rendu à ces convocations. Et lorsque mon avocat a demandé la levée de son immunité parlementaire, ce sont les parlementaires de la majorité qui se sont opposés à la levée de son immunité. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous savez,
je vous sens très grave sur cet instant.
Mais je suis très grave sur ce sujet parce que on parle depuis quelques jours de l'exploitation abjecte qui a été faite de l'assassinat de Quentin à Lyon, l'exploitation abjecte politique qui serait faite à l'encontre de LFI. Mais par vos propos rappelés à l'instant, enfin pas vos propos, les propos de Jean-Luc Mélenchon que vous venez de rappeler, on voit ce dont ils sont capables. On voit comment ils exercent eux-mêmes la violence en désignant des cibles.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'inverse, eux-mêmes avaient exploité, en quelque sorte, la mort de Rémi Fraîche.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu recours à la justice, ce qui est normal de la part d'un républicain attaché au principe de l'état de droit, et il s'est passé exactement ce que je viens de vous indiquer.
Au fond, ils estiment aujourd'hui d'avoir une responsabilité, vous imaginez, mais ils avaient considéré que vous en aviez une, vous, dans la mort de Rémi Fraîche.
Moi, j'ai donné toutes les instructions qui ont été les miennes dans cette nuit tragique à l'Assemblée nationale qui a conduit une commission d'enquête. Il y a eu un jugement qui a été rendu. À aucun moment je n'ai été mis en cause pour la bonne et simple raison que les consignes que j'ai données tout au long de cette nuit tragique et dans les jours qui ont précédé étaient des consignes de modération dans l'usage de la force, parce que je redoutais que ce drame intervienne. Mais peu importe la vérité pour ces acteurs. Ce que ces acteurs souhaitent, c'est mettre en cause l'État et ceux qui en assurent la responsabilité lorsque des drames, des tragédies de ce type se produisent, parce que toute leur idéologie est la police tue. Il y a une consubstantialité de la violence à la police et de l'État à la violence. C'est leur stratégie. Peu importe la vérité, seul compte le but politique, et les méthodes qui sont utilisées pour atteindre ce but sont celles que vous venez d'évoquer en rappelant leurs propos. Moi, je suis resté à ce moment-là dans la réserve, je crois dans la dignité de la parole. J'ai dit quelle était ma responsabilité au moment de cette tragédie, en donnant à l'Assemblée nationale et à la justice tous les éléments dont elle souhaitait disposer. À aucun moment je n'ai été mis en cause, mais ça n'a pas empêché ces acteurs de se comporter comme ils se sont comportés. Pourquoi ? Parce que leur modalité, c'est la tension, c'est la violence, en espérant que cette violence et cette tension servent leur stratégie politique.
Désormais, il y a des groupuscules qui manifestent. Ça a été le cas samedi à Lyon, cette marche en hommage à Quentin. 3200 personnes. Alors, le RN avait refusé d'y participer. La plupart des partis, d'ailleurs, ont invité à ne pas y participer. Il y a eu des saluts nazis, il y a eu des slogans d'ultra-droite. La préfecture du Rhône a estimé qu'il fallait désormais saisir même la justice au sujet de ces saluts nazis et ces insultes racistes et homophobes qui ont été donc détectés à Lyon. Est-ce que vous redoutez que l'on entre dans un moment de confrontation qui pourrait conduire à ce que certains appellent la guerre civile ?
Mais je ne redoute pas qu'on entre dans un moment de confrontation. Ce qui s'est passé à Lyon est la matérialisation du fait que cette confrontation a commencé. Et qui aurait imaginé, il y a de cela simplement quelques mois ou quelques années, qu'ont pu manifester dans la ville où Klaus Barbie a commis les crimes que l'on sait, où le père de Robert Badinter a été arrêté avant d'être envoyé en déportation, avec des saluts nazis, avec des propos racistes, xénophobes, homophobes. Qui aurait pu imaginer cela ? Et qui aurait pu imaginer qu'une formation politique de gauche puisse entretenir avec ce que l'on peut appeler une milice, la jeune garde, des relations aussi étroites, en assumant aussi ostensiblement cette relation, alors même que cette organisation a été dissoute parce qu'elle représentait un risque de troubles graves à l'ordre public, et que certains de ses membres, par ailleurs collaborateurs d'un parlementaire en exercice, ont été mis en cause pour les violences ayant occasionné...
Pour vous, la responsabilité, au moins morale, elle est directe.
Mais je considère qu'à partir du moment où ces faits sont établis, la seule chose qu'est à faire la France insoumise, c'est à exprimer ses regrets, à rompre avec tous ceux qui, dans cette organisation, ont commis ou ont été à l'origine de ces violences, qu'elle reconnaisse sa faute, plutôt que d'affirmer sa solidarité, que de soutenir le parlementaire dont les collaborateurs ont été mis en cause, comme si la violence était sans conséquence.
Bernard Cazeneuve, vous prenez un large rassemblement du centre et de la gauche. Ça va d'où à où ?
Ça va de tout le pôle social-démocrate, c'est-à-dire de la gauche de gouvernement, jusque aux franges de l'actuelle majorité.
Pour vous, tout simplement vous, prenez parce qui, que vous prenez qui à droite ? Vous prenez Bruno Retailleau ? Vous prenez Édouard Philippe ? Vous prenez qui ?
Non, mais moi je prends les électeurs. C'est-à-dire ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer les conditions pour que la clarté du discours, la volonté de redressement du pays, la détermination à sauver les institutions républicaines de la menace d'extrême violence qui pèse sur elles, conduise au rassemblement le plus large possible des Français autour de l'Union claire. Je pense que ce rassemblement sera d'autant plus simple qu'il se fera autour du pôle social-démocrate, et qu'il sera d'autant plus facile à opérer, qu'il s'opérera dans la clarté sur les valeurs de la République, la nécessité de défendre fermement les principes de l'état de droit et l'ordre républicain, qu'il se fera aussi autour d'une ambition de justice sociale et fiscale, qui ne va pas sans efficacité économique, etc.
C'est un programme sur lequel vous invitez qui à travailler, c'est-à-dire que est-ce que du côté, on a bien compris qu'il y aurait le Parti Socialiste, s'il rompt nettement avec LFI.
Le Parti Socialiste doit rompre, mais le Parti Socialiste ne doit pas seulement rompre, il doit désormais rassembler en son sein tous ses enfants, toutes ses composantes.
Mais enfin, vous-même, vous en êtes parti.
Mais j'en suis parti précisément parce que la ligne était celle que je condamne. Mais le Parti Socialiste peut, à un moment donné, faire lucidement le constat de l'impasse dans laquelle il s'est engagé et qui met le pays en situation de risque de basculement vers le RN et créer les conditions d'un rassemblement large qui permette d'éviter
ce basculement. Dans ce cas-là, vous seriez prêt à en être.
Mais je suis, de toutes les façons, toujours prêt à privilégier des logiques collectives sur des logiques individuelles. Croyez-moi, je n'ai pas quitté le Parti Socialiste avec bonheur. Je l'ai quitté pour des raisons qui tenaient à mes convictions, je n'ai pas quitté par dépit, et je ne s'y suis pas demeuré non plus par calcul. Donc je suis prêt à y revenir s'il y a, au lendemain des élections municipales, un acte de large rassemblement permettant à la social-démocratie de se mettre au cœur du paysage politique pour créer les conditions d'un rassemblement
François
large
Hollande,
des Français permettant d'éviter le RN.
François Hollande, chez nos confrères de la Tribune dimanche, a dit « C'est aux Français de dire qui est le meilleur, ça peut être une personnalité qui apporte un renouvellement, Raphaël Glucksmann ou Bernard Cazeneuve qui apporte une grande expérience. » Est-ce que vous y réfléchissez ?
Moi, je ne réfléchis pas à ma situation personnelle. Je réfléchis à la situation du pays. Si je peux, compte tenu du contexte, apporter une contribution utile, je le ferai. Il y a mille manières de servir. On peut servir en étant candidat à l'élection présidentielle, on peut servir en appartenant à une équipe. Moi, je ne fais pas de cette affaire une affaire personnelle. Je ne manœuvre pas. Je cherche pas un chemin pour moi-même. Je cherche à éviter le pire dans un moment de gravité extrême. Et je pense qu'il est possible de le faire si on arrête la multiplication des candidatures à l'élection présidentielle, si l'on prend la mesure de la gravité de la situation, et si tous ceux qui sont dans
le camp républicain... Est-ce qu'il faut une primaire?
À gauche, certainement pas. À gauche, il faut que la famille social-démocrate se reconstitue en
mais
se
rassemblant. Mais ensuite, éventuellement une primaire
désigne,
pour élargir.
Non, que cette famille désigne un candidat, que le bloc central ne multiplie pas lui aussi les candidatures, et nous verrons bien dans la dynamique de la campagne qui est celui qui est le mieux.
Si je comprends bien, Bernard Cazeneuve, ça veut dire que vous dites, en gros, il faudrait que du côté de la gauche républicaine, on se mette d'accord sur une personnalité. Si du côté de la droite et du centre, ils se mettent d'accord, je sais pas, par exemple, sur Édouard Philippe, voilà, ça en fait deux, et ensemble, ensuite, on voit lequel est le plus fort.
On verra ensuite qui est en situation de battre le Rassemblement national. Car l'objectif, encore une fois, c'est de battre le Rassemblement national. LFI n'est pas en situation de gagner l'élection présidentielle, mais elle est en situation d'aider le RN à la gagner. Pour des raisons qui tiennent
donc en gros, pour vous, il faut oublier LFI et se concentrer sur le projet.
Il faut remettre le pôle social-démocrate en situation de domination à gauche, avoir une position extrêmement claire à l'égard de LFI et combattre cette organisation compte tenu des positions qui sont les siennes et créer ensuite les conditions d'un large rassemblement qui permettra d'éviter le rassemblement national.
Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Tiens, votre dernier livre, Un chien parmi les loups, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il est 8h47 et vous êtes bien sûr RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, était mon invité dans le face-à-face et Laurent Wauquiez avait souhaité réagir.
Oui, bonjour Mme Malherbe. Bonjour, oui, je suis en train de vous, oui. Oui, je sais que vous kiffez quand on attaque cette rubrique un lundi matin avec Laurent Wauquiez.
Avec qui?
Je sais que je te plais, Apolline. Moi, le Georges Clooney du Puy-en-Velay. Bref, bravo à Laurent Nunez. Franchement, c'est beau comme il a géré. Il a réussi en quelques mois la lourde tâche de redresser le ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur laissé dans un état déplorable, il faut rappeler, après le passage lamentable d'un homme qui était plus intéressé par ses ambitions présidentielles que par la sécurité de nos concitoyens.
Vous parlez évidemment de Bruno Retailleau.
Voyez, je n'ai même pas cité son nom, vous savez tout de suite de qui je parle. Tellement il a marqué les esprits en plongeant le pays dans le chaos. Alors, cher Laurent Nunez, si vous avez des conseils à me donner pour réussir à succéder à Retailleau à la tête des Républicains quand il va se planter dans peu de temps, eh bien, je suis preneur.
Merci beaucoup, Laurent Wauquiez.
De rien, mon poussin. Oui, bonjour, bonjour à tous. Salut mes fans. Salut, oui, bah oui, pour vous, je remets les lunettes de beau gosse.
Hein.
Même si j'en ai plus besoin, vous avez vu, malheureusement, je suis guéri. Voilà, c'est le problème. C'est con parce que j'avais pris une popularité de ouf. Je vais faire confidence à Pauline ce matin. J'ai failli me remettre du tabasco dans les yeux.
Mais non,
on pourra les remettre.
Bon, alors, monsieur le président, un mot sur Roland Lescure.
Mais Bah écoutez, je tenais à saluer Roland, c'est mon gars solide, hein, sur qui je peux compter, mon gars qui va faire disparaître la dette, hein, hein mon Roland, hein, t'as un an pour nettoyer le bordel, c'est pas non plus mission impossible.
Hein. Mission impossible, je l'ai, rapport aux lunettes, ça paraît quand même ambitieux, hein, franchement.
Ben entre vous et moi, bon ben Simon Roland n'arrive pas, c'est pas très grave, hein, comme d'hab, on mettra tout sur le dos de Bruno Le Maire, hein. Moi je vais finir mon mandat tranquillou sur l'international, je préfère, hein, on essaie d'éviter une troisième guerre mondiale, voilà. Ben oui, c'est héros du monde libre sur un CV, ça sonne mieux que le gars ou ce qui est marqué sur la carte de visite a réussi à faire augmenter le PIB de 0,83%.
Moscato Show.
On a le ministre de l'économie et finances, il débarque, le gosse, il faut qu'il trouve 3000 milliards de pognon. Je l'ai croisé en l'eau, il cherchait la monnaie, tu vois, la machine à café, même. Je me suis la main, j'ai quand même recompté mes doigts. Tu vois, le mec, il te pique tout, tu vois. Et là, le slip, le portefeuille, j'ai plaqué le slip. Précaution. Les mecs, les patrons, un BFM Business, tout plaqué sur la table, ils disent que je cache le économie sur économie partout.
Voilà, franchement.
Ah ben oui, bah attends, on risque le contrôle fiscal, nous, RMC. On fait un pognon de dingue, on risque le contrôle. Pour petit déjeuner, t'as vu, ils ont supprimé toutes les viennoiseries. Faut faire pitié. Donc, ils ont acheté chez Lidl, ils ont acheté de la margarine et du pain demi-périmé, on dirait du carton. Pitié dans le parking souterrain, plus de bagnole Unix. La Porsche d'Orelgate disparu, la Jaguar de Marshall prié, la Bentley de demain, j'ai prié, la Rolls de le chiffre prié, t'as vu juste la Fiat Panda de Texel, et bien sûr la bétaillère d'Apolline, parce que quand même, il faut qu'elle transporte ses 4 boutons.
T'es sur la Molikou, ma Pauline de Manard-Palerbe. Ça va, moi, sœur Abdoulo? Oui. Bah, déjà, je pense que président de l'Institut du Monde Arabe, c'est c'est un poste taillé pour moi, ça. Oui. Je suis celle qui connaît le mieux le monde arabe, puisque je suis né à Dakar. Hein. C'est vous dire si je m'y connais en géopolitique. Hein. Puis depuis 2 semaines, notez que je suis présidente de l'association France-Algérie.
Oui, on a vu, oui.
Hein. Alors, j'espère que ce sera moi, Inch'Allah. Hein. Oui, si. D'ailleurs, je remercie par avance le président Macron, hein, pour ma nomination à venir. Choukran, Sidi Macron. Vous voyez donc, je maîtrise parfaitement aussi la danse du vent.
Je vois. Le ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu'il prendrait le temps nécessaire, hein, pour trouver la personne idéale. J'imagine qu'il vérifiera le passé, le passif même de chaque candidat. Hein.
Vérifier le passé, le passif. Oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça.
Ah oui,
bah oui, parce que s'il fouille un peu, il va vite voir que moi aussi, dans le temps, j'ai eu des relations très proches avec un homme qui préférait les femmes plus jeunes. Hein. Ah oui. Mais je ne le savais pas, il faisait ça dans mon dos. Puis bah, c'était pas au niveau d'Epstein, hein. C'était lui, c'était pas en jet privé, c'était en scooter. Mais tout le monde sait que dès que j'ai découvert le poteau rose, j'ai mis tout de suite fin à cette relation.
Ah, hein. Oui.
J'ai coupé les ponts, je suis clean.
Vous êtes blanc
comme Jacob, enfin presque.
Philippe Devilliers, bonjour. Vous êtes choqué par Jack Lang?
Évidemment. Ce qui est choquant, mais c'est malheureux, c'est pas tant cette histoire d'annexe de pédocriminalité. AC News, bah oui, AC News, nous sommes ouverts d'esprit sur le sujet. Et puis il y a la notion du pardon. Est-ce pratique le pardon? Non. Ce qui est fou, c'est l'existence sur le territoire d'un institut du monde arabe. Et en plus, avec à sa tête un socialiste. On est en plein islamo-gauchisme.
Selon vous, qui devrait prendre la présidence de l'Institut du monde arabe?
Qui? On s'en fout, c'est personne. L'urgence, elle n'est pas là, n'est pas de nommer quelqu'un, c'est de démanteler de toute urgence ce repère de terroristes. Il faut arrêter avec ces orgies lubriques d'ayatollah dans des jacuzzis de pétrole. Hein. Franchement, l'Institut du monde arabe, et pourquoi pas bientôt à Paris une grande mosquée, hein, tant qu'on y est.
Ça existe déjà, la grande mosquée de Paris.
Quoi? Alors c'est quoi la suite? Les tours de Notre-Dame transformées en minaret, c'est ça, hein? Le Sacré-Cœur en hammam et l'Élysée en grand palais du grand vizir, hein, c'est ça.
Les agriculteurs en colère qui bloquaient l'autoroute A64 ont été délogés par les forces de l'ordre. Et on fait le point avec Jérôme Bail, bonjour.
Moi j'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer à Paris. Je suis rentré direct à la ferme parce que j'ai appris une terrible nouvelle. qu'il y a eu un drame à la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ma femme est partie.
Oh là là. Ah, je comprends, c'est très dur.
Mais non, mais je m'en fous qu'elle soit barrée. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle s'est barrée avec...
Avec qui?
Elle s'est barrée avec... Avec un éleveur de bovins argenté.
Oh non.
Depuis le jeudi, j'ai dit que c'était la concurrence déloyale, le Mercosur. Lui, voilà, c'est la concurrence déloyale. Lui, il est plus bandit que moi. Il a un joli accent. Il a pas besoin de mettre une casquette parce que lui, il a des cheveux, lui. La concurrence déloyale.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules, elles sont là, elles se préparent en direct du salon de l'agriculture. Des grandes gueules qui sont all set sur le stand de la région Hauts-de-France. On va débattre bien sûr des sujets concernant les agriculteurs, mais pas seulement, de l'actualité. Donc si vous êtes dans les parages, rejoignez-nous au salon de l'agriculture avec autour de la table Didier Giraud, bien sûr, notre éleveur de bovins, Joël Dagossiri et Charles Consigny. À tout de suite.